Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vendredi soir en France, nous avons été des millions à croire vrai une chose complètement fausse. Non, Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes, n'a pas été arrêté, mais vendredi soir, tout le monde y a cru, sauf les proches du retraité français interpellé par la police écossaise. Eux savaient que c'était impossible. Le Parisien a publié en premier l'information vendredi soir, 20 minutes avant l'agence France Presse. Alors pourquoi cette erreur de la police, de notre rédaction et des autres journalistes? Pour essayer de comprendre, Code Source refait le film des événements heure par heure. Stéphane Albouy, vous êtes directeur des rédactions du Parisien. Vous avez dans le passé dirigé le service police-justice du Parisien. Vous connaissez donc très bien les faits divers.
Oui, absolument. J'ai dirigé ce service et surtout j'en ai fait partie pendant 7 ou 8 ans avant d'en prendre la tête.
C'est quoi une source pour un fait diversier?
Il faut bien expliquer à nos lecteurs et à nos auditeurs qu'une source, c'est très souvent plusieurs années de relations, de confiance, d'échanges. C'est quelqu'un que l'on côtoie depuis longtemps, très souvent, qu'on a parfois rencontré au détour d'un dossier, sur une scène de crime, dans un commissariat de banlieue quand il était jeune. C'est quelqu'un qu'on a revu au fil des années. Pour certains ou pour certaines de ces sources, on a presque, je dirais, grandi ensemble. C'est des gens dont la carrière est parallèle à la nôtre, d'une certaine manière. Et c'est véritablement comme ça que ça se construit.
Damien Delceni, vous êtes le chef du service police-justice du Parisien. Ça représente quoi pour un fait diversier, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès?
Ça représente une des 3-4 affaires les plus importantes de ces 20-30 dernières années en France. Il y a l'affaire Grégory, il y a l'affaire Dupont de Ligonnès, il y a eu l'affaire du docteur Godard pendant un moment. C'est des affaires qui vraiment figurent dans le palmarès, y compris d'ailleurs au-delà d'un fait diversier, de la mémoire collective française. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécifiquement aux faits divers, si vous lui dites Xavier Dupont de Ligonnès et si vous lui racontez les deux premières lignes de l'histoire, il connaît l'histoire.
On rappelle l'un des principaux titres. Un avis de recherche internationale est lancé pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille soupçonné d'avoir méthodiquement organisé le meurtre de sa femme et de leurs quatre enfants à Nantes. Les autopsies pratiquées hier sur les cinq corps concluent à des morts par balle dans leur sommeil.
C'est évidemment une affaire passionnante et même au-delà parce qu'elle n'a pas connu de dénouement. Il y a toujours un mystère autour de cette affaire, il y a toujours un mystère autour de cette enquête. Donc évidemment, c'est quelque chose que on suit de manière pas quotidienne, bien évidemment. L'affaire Dupont de Ligonnès, on peut passer un an sans se pencher dessus. Par contre, dès que quelque chose a trait à cette histoire, on va forcément le regarder de plus près.
Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'information pour la première fois ce vendredi soir?
Vendredi soir, je suis de bouclage, comme on dit, c'est-à-dire que j'assure la finalisation du journal. D'ailleurs, il est bien avancé, on est un peu avant 20h, on a programmé en une un dossier sur la situation des Kurdes. La une est quasiment finalisée, je fais un tour des services et je passe aux IG, le service des informations générales, qui s'occupe des faits divers. Et là, le chef de service qui est présent, Geoffroy Tomasovic, m'interpelle et me dit « on a une info sur Xavier Dupont de Ligonnès ». Il me dit tout simplement qu'ils ont des premières informations faisant état de son arrestation à Glasgow, en Écosse.
Un des journalistes du service reçoit cette information. Il la reçoit d'une source très fiable et surtout très proche du dossier Ligonnès. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a vu passer ou qui a entendu quelque chose dans un couloir, c'est quelqu'un qui est au cœur de cette enquête et qui lui fournit ce début d'information. C'est comme ça que ça arrive sur la table du service pour la justice, il est à peu près 20h.
Et les journalistes se mettent à travailler dessus.
Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, surtout sur une affaire comme celle-là, qui est une affaire majeure et capitale pour nous, c'est qu'on ne laisse pas quelqu'un travailler seul, même s'il est propriétaire de son information au départ, mais on se met un peu en ordre de bataille, c'est-à-dire que tous ceux qui sont susceptibles d'avoir d'autres sources qui permettent d'étayer ou de confirmer cette première information, se mettent en route, prennent leur téléphone, appellent, et on commence tous comme ça, de notre côté, à essayer de tirer quelques sonnettes pour avoir des informations qui redescendent.
Que disent les autres sources ?
Les autres sources qu'on appelle, alors il faut savoir qu'on a appelé des personnes qui travaillent dans des services de police différents, qui sont hiérarchiquement pas placées au même endroit, c'est-à-dire qu'on n'a pas appelé trois personnes qui sont voisins de bureau.
Sur ce type de dossier, avoir cinq sources, si c'est cinq personnes qui travaillent dans le même service ou le même bureau, c'est une source. Voilà, c'est aussi simple que ça.
On a appelé des gens qui sont en province, qui sont à Paris, qui sont dans des services centraux, d'autres pas. Et en fait, les premiers retours qu'on a sont de deux natures. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui sont évidemment estomaqués comme nous de cette nouvelle et qui nous disent « bah voilà, je vais me renseigner, je te rappelle ». Et des gens qui sont déjà dans la boucle et qui, eux, nous confirment la première information.
L'ambiance, c'est très paradoxal, c'est un mélange d'excitation et de concentration. C'est-à-dire qu'il y a une tension immédiate qui se fait et en même temps, il y a une polarisation, je dirais, de l'attention de chacun. Et très vite, dans ce genre de situation, il y a des réflexes, comme dans tous les services d'ailleurs du journal, mais sur ce type d'affaires, là, on sent que tout le monde d'un seul coup, totalement concentré sur un objectif, c'est la vérification. On a une deuxième information qui confirme la première, voilà, ça commence à sentir bon, en fait. On se dit, là, il y a quelque chose.
La dernière fois qu'on avait vu, c'était cette capture photo devant un distributeur de billets, c'était cette voiture abandonnée sur un parking d'hôtel, et là, on se dit, 8 ans après, on va enfin savoir.
On est dans le cadre d'un dossier, en plus, qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs alertes par le passé. Il y a eu plusieurs fois des moments où on y a cru. Mais là, on sent, très vite, en l'espace de quelques minutes, qu'on ne se situe pas dans le même cadre que ce qu'on a connu habituellement.
Combien de journalistes travaillent dessus ?
3 journalistes qui sont directement en prise avec des sources et 5 journalistes au total qui vont se mettre sur le dossier et qui vont couper, recouper les informations.
Que disent les policiers que les journalistes du service police-justice du Parisien ont au téléphone ?
Les sources, elles disent des choses pas toujours très détaillées, mais tous, en tout cas, sont sur une même tonalité, qui est une tonalité de certitude. C'est-à-dire, on n'a personne qui nous dit, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, surtout sur des affaires sensibles, qui nous dit, attendez, on est en train de recouper des infos, c'est une rumeur, on est en train de vérifier, etc. Là, on a des gens qui nous disent tous, bah oui, les informations écossaises sont formelles, c'est lui, il a été arrêté. Eux aussi sont dans, même des professionnels comme eux qui sont policiers, sont aussi dans une forme de surprise parce qu'ils s'attendent pas forcément à une nouvelle pareille un vendredi soir. Mais en tout cas, ils sont tous sur une tonalité extrêmement affirmative. On parle pas beaucoup au conditionnel à ce moment-là déjà.
Et le Parisien annonce l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès dans un premier article qui est mis en ligne le vendredi soir à 20h41. Quelles sont les sources et que dit cet article ?
Alors, quelles sont les sources ? Je ne vais pas vous le dire, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont au nombre de 5, qu'elles sont au plus haut niveau de la hiérarchie policière, qu'elles sont par ailleurs dans des services décentralisés, c'est-à-dire qu'on a des policiers et des sources judiciaires basées à Paris qui nous confirment, mais aussi des enquêteurs terrain, en région. Donc, on a une variété de sources, c'est ça qui est très important.
Parce que justement, on a eu ces 5 sources différentes qui nous ont validé cette information, on décide effectivement d'alerter, c'est-à-dire de sortir ce qu'on sait à ce moment-là. On sait qu'il a été interpellé à l'aéroport de Glasgow, à la descente d'un vol venant de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle, et que ces empreintes digitales ont permis de certifier que c'était bien Xavier Dupont de Ligonnès.
L'article est mis en ligne et de votre côté, vous travaillez aussi sur la une du lendemain, du samedi matin.
Bien sûr. Dans la foulée, On sort toutes les photos du dossier, évidemment. On fait un choix de photos qui nous semble le mieux correspondre. D'ailleurs, le choix n'est pas d'une grande originalité. Hein. La plupart des médias utiliseront la même photo. On fait un premier positionnement de tout ça. Mais surtout, on continue à travailler. Parce qu'il y a un premier papier qui est fait. Mais on continue à récolter des informations. Et on continue à conforter tout ce qu'on a depuis le début. C'est-à-dire qu'on ajoute des détails aux détails, on a des confirmations, mais des confirmations qui nous disent par ailleurs, au moment de son arrestation, il est en possession d'un passeport volé, ce passeport nous renvoie à telle adresse dans les Yvelines, à Limay. On apprend évidemment que des policiers sont en route pour le quartier où habite le suspect interpellé. On envoie nous-mêmes une équipe sur place. C'est-à-dire que le travail se fait en continu. Il ne s'arrête pas au moment de la publication du premier papier. On continue à étayer minute après minute les informations qu'on a depuis le début.
21h04, une dépêche de l'agence France-Presse tombe et elle confirme ce qu'avait dit le Parisien.
Un peu plus de 20 minutes après notre information, l'AFP, alors je ne sais pas s'ils sont alertés par notre information ou s'ils y travaillaient déjà de leur côté, parce
ça
que là, j'ai pas, ça arrive aussi. L'AFP sort une dépêche qui l'a confirme effectivement ce qu'on a écrit, et on l'apprendra par ailleurs plus tard, confirme cette information sur la base de 4 sources à elle. C'est-à-dire qu'ils ont fait le boulot à fond, ils ont vérifié ce qu'on a dit, et ils ont 4 sources différentes qui accréditent ce que l'on a écrit.
En même temps, les sources de l'AFP, comme celle du Parisien, disent « les Écossais nous disent ça ».
Oui, absolument. C'est les Écossais nous disent ça, mais ce que l'on sait, c'est que par ailleurs, sur place, il y a des agents de liaison, il y a déjà des policiers dont on nous dit ils sont en route pour aller là-bas. Mais il y a une telle certitude dans la voix et dans le ton des interlocuteurs que nous avons ce soir-là, qu'il n'y a pas de part au doute à ce moment-là.
Les policiers que les journalistes du Parisien ont au téléphone à ce moment-là, les sources, elles sont dans quel état d'esprit ?
Elles sont, je dirais, résolument optimiste. On sent chez certains d'entre eux peut-être un soulagement. En tout cas, là, c'est ce que me racontent les équipes et les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a, pour la première fois, chez des policiers et des sources, des personnalités très aguerries, qui sont toujours très prudentes. Et d'ailleurs, ce soir-là, elles nous donnent la sensation d'être prudentes. Mais il y a le sentiment, ou en tout cas, un ton qui laisse à penser que quelque chose de totalement nouveau dans cette enquête est en train de se passer et qu'il y a eu une forme d'aboutissement. Certains sont là quasiment depuis le début de l'enquête. Et au moment où ils nous parlent de cette arrestation, pour certains, c'est véritablement presque l'objectif d'une vie. Donc, c'est une réalisation extraordinaire. Alors que ce sont des personnes qui sont habituées à avoir une extrême prudence. Ils ont été confrontés à des découvertes de squelettes sur lesquelles on a effectué des vérifications pour s'assurer que ça n'était pas le corps de Dupont de Ligonnès. Ils ont eu des centaines de signalements, parfois très précis. Il y a eu des pistes très sérieuses sur lesquelles ils ont travaillé. Mais à aucun moment, ils n'ont communiqué ou en tout cas ils n'ont parlé ou ils ne se sont livrés de cette manière-là.
Et le Parisien a contacté la police locale de Glasgow. Qu'est-ce qu'elle a dit ?
La police locale de Glasgow, elle dit pas grand-chose. À ce moment-là, elle dit juste, effectivement, elle nous confirme qu'un Français a bien été interpellé à la descente du vol Paris-Glasgow, qu'il est en garde à vue. Elle dit pas grand-chose d'autre. Elle dit qu'il y a des vérifications qui sont en cours.
À ce moment-là, nos confrères des télévisions et des radios sont en édition spéciale et parlent, bien sûr, de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès.
Bah évidemment, tout le monde s'est mis en ordre de bataille sur toutes les chaînes possibles.
8 années de cavale et peut-être la fin d'une affaire criminelle hors norme.
Cette information concernant l'arrestation du Français Xavier Dupont de Ligonnès, il a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport de Glasgow en Écosse. C'est le Parisien et l'AFP qui nous l'apprennent.
Pour commencer, évidemment, l'information de cette soirée, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès.
Et voilà, défilent les spécialistes, les personnes qui ont écrit un bouquin sur l'affaire, les spécialistes pour les justices de toutes les chaînes, d'anciens policiers. Tous ceux qui ont eu à un moment donné une compétence ou qui ont à un moment donné connaissance de cette affaire sont convoqués sur les plateaux pour donner leur avis sur ce rebondissement incroyable.
Le samedi matin, le Parisien fait sa une avec une photo de Xavier Dupont de Ligonnès, le titre « Arrêté ».
Ça nous semblait résumer la situation de la manière la plus claire possible. Dans ces cas-là, une information aussi solide qu'elle nous apparaît au moment de la publication, voilà, il faut être très clair, il faut que le message y soit immédiat. On était face à un fugitif dont on ne savait pas quoi penser, où est-ce qu'il se trouvait, était-il mort ? Donc il est arrêté, ça veut dire qu'il est vivant et ça veut dire qu'on va commencer à avoir des réponses sur un des plus grands mystères des affaires judiciaires françaises.
En même temps, dans le corps de l'article, il est bien précisé que des tests ADN devront bien confirmer l'identité de la personne qui a été arrêtée.
Absolument, on l'écrit dans le papier, d'ailleurs c'est ce qui nous est dit. Avec les empreintes digitales, là forcément il y a quelque chose, il y a un élément probant, il y a un élément qui est quasiment indiscutable. Mais ils nous disent quand même, il faudra le test ADN pour clouter d'une certaine manière, c'est les termes qu'ils emploient aussi, pour clouter le dossier.
Et à ce moment-là, le procureur de la République est également très prudent.
Le soir de la parution des premiers sujets, il dit « Attention, il y a des vérifications en cours, il faut rester prudent ». Il est dans son rôle, c'est le procureur, c'est lui qui détient la parole officielle sur l'enquête judiciaire. Il est minuit, autour de minuit, donc effectivement... Mais nous, on a recueilli dans la soirée le témoignage de Maître Goldenstein, qui est un avocat de la partie civile, et qui nous dit « Attention, on a déjà eu des alertes, on y a déjà cru, donc restons prudents ». On fait état de ces précautions d'usage.
Assez tôt, dans la matinée du samedi 12 octobre, apparaissent les premiers doutes.
Oui, les premiers doutes, ils apparaissent tôt dans la matinée. En réalité, la veille, vers 22h, il y a une perquisition qui est menée par les policiers français à Limay, dans les Yvelines, au domicile de celui qui est supposé, toujours à ce moment-là, être Xavier Dupont de Ligonnès.
Donc ce retraité prénommé Guy.
Et voilà, ce retraité prénommé Guy. Donc une perquisition menée par les policiers qui va durer un tout petit peu plus de 2h à Limay, donc de 22h à un peu plus de minuit. Il y a un journaliste du Parisien qui est présent sur place, mais on ne peut pas s'approcher de la maison, il est assez tard, il n'y a pas de voisins dehors, ce n'est pas non plus un secteur très urbanisé, c'est plutôt pavillonnaire, les gens sont chez eux. Donc, on n'a pas d'éléments à minuit et demi quand les policiers s'en vont après la perquisition, on n'a pas d'éléments nouveaux. Ils vont faire un rapport de cette perquisition le samedi matin, assez tôt à leur hiérarchie. Un rapport, en fait, dans lequel ils disent surtout qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose, voire rien du tout, correspondant à l'information de la veille au soir. Le rapport qu'ils font est assez bref. Ils disent, en gros, nous, on n'a pas d'éléments de la perquisition qui nous permettent de penser que Xavier Dupont de Ligonnès est cette personne et a vécu dans cette maison.
Et justement, on va voir très vite, le samedi matin, qu'il y a des doutes sur l'identité de la personne arrêtée à Glasgow.
Sensiblement, au moment où les policiers, eux, écrivent un rapport très technique sur leur perquisition, il y a des infos qui remontent, en fait, du voisinage. Des gens qui habitent Limay, qui habitent à côté, qui connaissent Guy.
Je sais pas, les flics, ils l'arrêtent, c'est ses empreintes, merde, il y a 9 doigts. Moi, je rentre hier soir, je vois ça, je dis, putain, mais j'y merde. Mais Guy, ça va faire, je sais pas, une quinzaine d'années que vraiment on se côtoie et tout ça.
Et puis en plus, ma maison, on voit son jardin directement, il était souvent là avec des amis, enfin, physiquement, on voit très bien que c'est pas lui.
Quand les doutes montent de plus en plus le samedi matin, vous, Stéphane Albouy, en tant que directeur des rédactions du Parisien, qu'est-ce que vous vous dites ?
Je me dis qu'il va falloir nous-mêmes que l'on continue à enquêter, je dirais, deux fois plus encore. C'est-à-dire que au moment où on sent que le lien qui nous unissait à la vérité ou à ce qu'on pensait être la vérité est en train de s'effilocher, là, il faut vraiment que l'on redouble d'activité, que l'on aille au plus vite et au cœur de l'information pour comprendre ce qui est en train de se jouer.
Mais à ce moment-là, il faut être très clair. Quand les premières infos remontent de l'email où on nous dit, où les gens nous disent... Le Guy qui habite là ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une façon pour nous de se dire, bon, il y a un problème avec ce Guy et Limay, mais est-ce que la personne qui est arrêtée à Glasgow, est-ce qu'il y en a qu'une, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'on peut pas y avoir une confusion même sur qui est actuellement en garde à vue à l'aéroport de Glasgow? À partir de ce moment-là, on se met plus du tout dans la même perspective que la veille au soir, c'est-à-dire que là, on commence à se dire qu'il va falloir vérifier qui est réellement en garde à vue à l'aéroport de Glasgow. Est-ce que c'est ce Guy dont tout le monde nous dit c'est un paisible retraité qui a travaillé pendant des années chez Renault et auquel cas ça ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est en garde à vue à Glasgow?
Dans les premières heures de la matinée, je dirais autour de 6h, 7h du matin, on est encore dans le doute. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis, un des éléments très clairement qui opère la bascule, et on est en début de matinée, c'est lorsqu'on met la main sur la photo du suspect qui a été interpellé à Glasgow. Et là, on se dit que... Enfin, on se demande même ce qui est passé par la tête des officiers qui ont eu cet homme face à eux pour penser que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Et là, il y a un grand moment de vide, quand même.
Dans la matinée, il y a déjà une deuxième information qui commence à faire complètement tourner le vent, c'est-à-dire que on apprend par les Écossais qu'en réalité, ces fameuses empreintes digitales qui correspondaient à celles de Xavier Dupont de Ligonnès la veille, finalement, elles ne correspondent plus vraiment. Enfin, on nous parle de 5 points de corrélation sur 12, ce qui est très peu. On nous dit qu'en fait, on attend l'ADN pour être sûr. Donc là, tous ces événements mis bout à bout et tous ces éléments mis bout à bout, c'est plus du doute. C'est-à-dire que là, on attend la validation par l'ADN que la personne qui est à l'aéroport de Glasgow s'appelle Guy, effectivement, mais ne peut pas s'appeler Xavier Dupont de Ligonnès.
À 13h04, une dépêche de l'agence France Presse confirme que les ADN ne correspondent pas.
La messe est dite, hein, d'une certaine manière. C'est le moment où on a la confirmation et doute, pour pas dire des craintes qu'on avait depuis le milieu de matinée.
Et à ce moment-là, du coup, l'histoire, ça devient comment est-ce qu'on a pu faire une telle bévue ? C'est l'histoire d'un ratage au niveau policier, au niveau journalistique aussi.
Ouais, c'est l'histoire d'une méprise. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a qualifié à la une de notre journal, de notre édition de dimanche. C'est l'histoire d'une méprise. On se doit absolument de comprendre d'où vient cette méprise, quelles sont les erreurs qui ont été commises de notre part, d'abord. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la chaîne d'information auprès de nos interlocuteurs français, du côté écossais, et remonter le fil de ces informations, ce qu'on est encore en train de faire, en réunissant des éléments, d'ailleurs qui attestent que tard dans la soirée de vendredi, tout le monde s'échangeait des informations concordantes sur le fait qu'on avait bien arrêté Xavier Dupont de Ligonnès. On va en faire paraître encore dans les jours qui viennent pour bien expliquer dans quel cadre on exerçait à ce moment-là.
À 22h38 le vendredi soir, c'est-à-dire ça fait déjà plus d'une heure et demie que le Parisien a dit Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté en Écosse. À 22h38, la police française reçoit un message de son homologue britannique lui disant « Nous avons prévenu le magistrat français de permanence, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow cet après-midi. Point. Il n'y a pas « aurait été », il n'y a pas « vérification en cours », c'est une phrase affirmative sur l'interpellation de Xavier Dupont de Ligonnès qui est datée de vendredi 22h38. Il y a eu cette info de 20h, il y a eu tout ce qui s'est passé après, et en fait, tout au long de la soirée, plein d'éléments sont venus corroborer les premiers. Donc effectivement, quand le samedi, le lendemain, on apprend à 13h de manière définitive qu'il y a une vraie erreur, qu'il y a une terrible méprise, il faut d'abord essayer de comprendre si quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, si on n'a pas bien fait notre travail, si on n'a pas suffisamment vérifié un certain nombre d'informations. Et ce n'est qu'après, en fait, qu'on va se rendre compte que ce n'est pas le problème de nos sources. Le problème, il vient de l'information de départ. L'information de départ est erronée. Tout ce qui va se s'imbriquer derrière va forcément nous conduire à cette erreur majeure. Mais en fait, toutes les sources qu'on a eues n'ont pas menti. Elles ont juste relayé de très bonne foi et sur la foi surtout de documents extrêmement précis, extrêmement affirmatifs, une information qui s'avérait être une erreur.
Alors justement, essayons de revenir un petit peu plus tôt dans cette journée de vendredi. Est-ce qu'on sait pourquoi la police écossaise arrête cet homme, ce retraité français Guy ?
Alors, il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur le point de départ et qu'il va falloir que, de toute façon, on arrive à savoir, ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une information anonyme qui parvient apparemment à la police écossaise.
Les policiers écossais jugent cette première dénonciation anonyme crédible.
Assez crédible pour se dire qu'ils vont la communiquer à la police française. Il n'y a pas des échanges quotidiens entre la police écossaise et la police française sur aucun sujet. Sur ce sujet-là, la police écossaise décide, à partir d'une information qu'ils obtiennent, de la transmettre à un autre pays en leur disant « Voilà, on pense que cette information-là peut intéresser votre enquête. » Première information qu'ils donnent, c'est « Il sera dans l'avion le samedi 12. » Et puis finalement, ils disent aux Français « En fait, c'est pas samedi, c'est vendredi. » Mais comme ils leur disent quelques heures avant, les policiers n'ont pas le temps de se rendre à Roissy pour, en gros, faire un filtrage des passagers qui montent dans l'avion et essayer d'interpeller le fameux Xavier Dupont de Ligonnès. Donc en fait, ils disent aux Anglais « Écoutez, voilà, on va le laisser monter dans l'avion et puis à Glasgow, vous l'interpellez et vous faites les vérifications. »
Et là, la police locale de Glasgow arrête l'homme qui a été victime de la dénonciation anonyme.
Alors aujourd'hui, il est difficile de dire avec certitude si c'est un homme précisément qui a été visé par la dénonciation ou si c'est un passeport. Alors ça peut paraître idiot ce que je vous dis, mais ce qu'on sait, c'est que Guy, il s'est fait voler son passeport en 2014 à Roissy.
C'est établi.
Ça, c'est établi. Ça veut dire que son passeport, qui lui a été volé, il a peut-être circulé dans d'autres mains depuis. Ce qu'on cherche à savoir encore aujourd'hui, c'est est-ce que cette dénonciation, c'est quelqu'un qui dit aux policiers écossais « Voilà, il y a une personne qui voyage avec le passeport au nom de Guy et qui va prendre cet avion » ou est-ce que la personne dit « C'est Guy qui est Xavier Dupont de Ligonnès ?» C'est une toute petite différence et c'est énorme parce que si l'information de base, c'est de viser directement Guy, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a absolument aucun, même aucune ressemblance, qu'il n'y a aucune corrélation avec Xavier de Pont-Ligonnès, c'est clairement une dénonciation ou totalement fantaisiste ou calomnieuse pour nuire à ce fameux Guy. En revanche, si la dénonciation de départ, elle vise un document, un passeport, parce qu'on a une information que quelqu'un voyage avec le passeport d'un autre, ça c'est tout à fait différent, parce que là, ça voudrait dire qu'en fait, les policiers au départ, ils travaillent sur un document qui a été volé et qui pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre.
Stéphane Albouy, à votre avis, d'où part l'erreur ?
Je pense qu'il y a un élément qui est très important, qui n'a pas suffisamment été pris en compte, je dirais, de ce côté-là de la Manche, en France. C'est que les policiers écossais, ou en tout cas les forces de l'ordre écossaises qui ont travaillé sur ce dossier, n'avaient pas du tout la portée de ce que représentait pour nous, en France, ce dossier. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ils n'en avaient jamais entendu parler.
Pour eux, c'est juste quelqu'un qui était recherché.
Pour eux, c'était quelqu'un qui était recherché. Il y avait une fiche Interpol. Il y a beaucoup de gens qui font l'objet de fiches Interpol. Ils interpellent le suspect. Ça ressemble pas trop. Ils font les comparaisons d'empreintes digitales. Ça match. Et ils se disent, c'est super et on y va. On comprendra un peu plus tard qu'ils n'ont pas, par ailleurs, exactement les mêmes règles d'identification pour ce qui concerne les empreintes digitales. En France, pour valider une empreinte digitale, on a 12 points de recoupement nécessaires sur 13 points. On a découvert, malheureusement, que côté écossais, 5 points communs suffisaient à dire qu'on était en présence de la même personne.
Dans l'histoire de cette méprise, est-ce que le problème, finalement, ce n'est pas que les journalistes français sont très loin de la source de l'information qui se trouve à Glasgow ?
C'est un des éléments sur lequel, évidemment, on réfléchit, parce qu'on réfléchit depuis quelques jours à la façon que ce genre d'événement ne se reproduise plus jamais. Effectivement, une des explications possibles, c'est que non seulement on est loin de la source de départ, qui est la source écossaise, mais surtout, on la connaît pas, cette source écossaise. Nous, on connaît nos sources françaises, qui nous ont relayé des informations qui, encore une fois, je le répète, étaient à l'instant où elles nous les ont relayées, des informations qui étaient exactes. C'était pas des rumeurs, c'était pas des mensonges, c'était des informations qui leur provenaient de manière affirmative, totalement définitive. Là où effectivement on a perdu la maîtrise dès le départ, c'est qu'en fait, cette information de base, elle provient d'un service étranger sur lequel nous, on n'a aucune prise. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de source, malheureusement, dans la police écossaise ou dans la police de l'aéroport de Glasgow ou dans n'importe quelle autre police en Écosse. Donc on n'a pas les moyens d'aller chercher, vérifier si la source de cette information est valide, consolidée ou pas.
Dimanche, le 13 octobre, vous publiez un édito intitulé « Excuses ». Vous présentez vos excuses aux lecteurs du Parisien ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, je présente, puisque je suis le directeur de la rédaction et donc c'est moi qui prends la décision de publication. Et de toute façon, c'est ma responsabilité quand il y a une information qui est publiée. Je présente mes excuses aux lecteurs, puisque c'est le contraire de ce qui nous anime au fil de la journée. C'est-à-dire que notre métier, ce qui est vraiment notre moteur, c'est de raconter la vie des gens, de faire état de choses qui se passent réellement, d'enquêter en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles. Et donc là, c'est un contresens par rapport à ce qui est notre vocation et notre métier. Donc il y a une relation de confiance qui est tissée, là aussi on parlait des sources tout à l'heure, mais avec nos lecteurs, avec nos acheteurs, sont aussi nos clients, nos lecteurs. Et un événement comme celui-là, c'est dommageable pour une relation de confiance. Et donc la première des choses, et c'est bien naturel, c'est de s'excuser auprès des gens qui nous font confiance. Et puis aussi de le faire auprès des familles qui sont liées à ce dossier, parce que pour eux aussi, et pour ceux qui restent et qui attendent la vérité, c'est beaucoup d'espoir, et c'est un espoir une nouvelle fois qui s'est envolé. Dernier point, même si on n'y est pour rien, parce que malheureusement il a été interpellé à tort avant qu'on parle de lui, pour la personne qui s'est retrouvée dans cette tourmente.
Dans Le Parisien de dimanche, il y a un reportage à Nantes. Et ce qui en ressort, c'est que les habitants de Nantes avaient envie de croire à l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, envie de croire que cette affaire pourrait se refermer. C'était le cas de tout le monde, finalement, policiers, journalistes, on avait tous envie d'y croire.
Forcément, on a tous envie d'y croire. C'est une affaire au-delà du côté, je dirais, spectaculaire de ce dossier, et c'est surtout une affaire qui touche une famille qui a été décimée. On connaît tous les visages des enfants, de l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc il y a forcément une envie de savoir, une envie de comprendre, une envie de justice, tout simplement. Il y avait une envie d'obtenir et d'avoir la vérité sur ce dossier, une envie qui est toujours là.
Merci à Stéphane Albouy et Damien Delseny. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast et sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.